Prenons la parole dans le livre de Genèse, chapitre 1er. Voilà, notre thème de ce matin est une suite de la parole que nous avons partagée la semaine passée, dans laquelle on expliquait que la bonté de Dieu se manifestait de différentes manières. Donc, quel que soit l'endroit d'où nous venons, quelles que soient nos origines, eh bien, nous pouvons, chacun à notre niveau, expérimenter la bonté de Dieu. Et on avait expliqué que le Seigneur avait manifesté sa bonté, entre autres, en se révélant à nous, parce que nous ne l'avons pas forcément cherché, mais c'est le Seigneur qui s'est révélé à nous, c'est lui qui a permis que nous puissions, par sa parole, au travers de sa parole, le connaître aussi. Or, la Bible nous montre que dans le livre de Genèse, les hommes, Adam et Ève, parlaient avec le Seigneur. Et le péché les ont éloignés de la face de Dieu. Donc la face de Dieu était cachée à l'homme à cause du péché. Mais parce que le Seigneur avait créé l'homme pour partager avec lui une communion privilégiée, une communion particulière, le Seigneur n'a pas voulu que l'homme soit maintenu, en tout cas dans cette distance avec le Seigneur. Mais le Seigneur a voulu pour l'homme une vie de proximité avec lui. C'est pourquoi dans sa bonté, il a permis de se révéler au travers de sa parole qu'il va donner à son peuple, au travers des prophètes qu'il va envoyer vers son peuple, mais aussi au travers de Jésus-Christ qui est venu manifester la nature de Dieu, manifester la bonté de Dieu, afin que ceux qui l'ont vu vivre puissent voir et comprendre Dieu tel qu'il est dans sa nature. Et ça, le Seigneur l'a fait sans rien attendre en retour, sans rien exiger de notre part en retour. Et c'est un signe de sa bonté, sa propre révélation. Et c'est pour nous un privilège, encore ce matin, d'être dans la présence de Dieu et de pouvoir écouter sa parole d'une manière libre. Maintenant, nous savons que la parole de Dieu agit en fonction de la foi que nous lui accordons. La parole de Dieu ne produit pas forcément du fruit dans la vie de tout homme, et de tout homme non pas parce que Dieu ne le veut pas, puisque nous savons que Dieu est bon. Mais lorsqu'elle ne produit pas du fruit, c'est simplement parce que dans notre manière de recevoir la parole de Dieu, nous la recevons d'une manière qui n'est pas disposée, d'une manière qui n'est pas transparente. Or, la parole de Dieu doit produire du fruit en nous. Donc, si la parole de Dieu ne produit pas du fruit, bien-aimé, ce n'est pas parce que la parole n'est pas efficace, c'est simplement parce que nos cœurs à nous ne sont pas disposés, c'est parce que nos ambitions, nos motivations de suivre le Seigneur ne sont pas aussi forcément saines. Or, le Seigneur veut que nous puissions demeurer dans sa présence dans l'humilité, car en recevant sa parole avec humilité, automatiquement, elle produira du fruit. Donc, si ça fait un temps que nous écoutons la parole de Dieu, mais que nous ne voyons pas de changement dans notre vie, bien-aimés, ne nous posons pas des questions sur l'efficacité de la parole. Parce que la parole de Dieu, la Bible dit, elle est éprouvée cette fois. Dieu n'a plus rien à prouver au travers de sa parole. Mais si elle ne produit pas de changement dans notre vie, c'est parce que nous avons un problème. Le Seigneur nous a créés libres et aujourd'hui, il nous laisse encore libres dans nos choix. Et nous avons le choix d'accepter la parole de Dieu afin qu'elle nous change, qu'elle nous transforme. Ou nous avons encore le choix de résister, de faire semblant devant les hommes, mais dans tous les cas, d'une manière spirituelle, ça se verra. Et les fruits et notre témoignage démontrera si réellement nous avons reçu la parole de Dieu ou pas, parce qu'elle est appelée à produire un changement. Alors, la Bible nous dit, dans le livre de Genèse, chapitre 1, à partir du verset 25, Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Nous allons au chapitre 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Amen. Alors, à la création, lors de la création, Dieu va créer les animaux, les bêtes des champs. Et ensuite, il va créer l'homme. Et il y a une distinction que nous pouvons faire dans la manière dont Dieu a créé les êtres vivants. La Bible dit que lorsqu'il a créé l'homme, il a créé selon sa ressemblance, il a créé à son image. Il a créé l'homme en prenant de la poussière de la terre. Mais la Bible dit aussi que lorsque Dieu a créé les animaux, il les a aussi créés de la terre. Donc la même matière a servi pour créer l'homme et pour créer les animaux. Mais la Bible dit en ce qui concerne l'homme qu'il a été créé à l'image de Dieu. Et le Seigneur lui a soufflé dans ses narines pour lui donner la vie. Et cette vie que Dieu a donnée n'était pas simplement une vie qui consistait à respirer, à marcher, à voir, à manger, à boire. C'était une vie qui permettait de connaître Dieu, une vie qui permettait d'être dans une certaine paix, dans une certaine aisance. Et cette vie, lorsque Dieu l'a amenée sur terre, dès le départ, il a fait une distinction entre l'homme et les animaux. Les animaux ont été créés de la terre, l'homme aussi a été créé de la terre, mais la Bible dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et le Seigneur, dans sa bonté, jusqu'aujourd'hui, d'une manière physique, d'une manière visible, a conservé cette distinction. On peut aujourd'hui savoir lorsque l'on parle à un homme, et on peut aujourd'hui voir lorsque nous parlons à un chien, ou bien un crapaud, ou bien une poule. Donc il y a une différence dans la conception de l'homme et des animaux. Donc il n'y a pas besoin, je dirais, de faire de longs cours, de longues études pour savoir discerner un homme d'un animal. Et cette distinction, le Seigneur l'a fait dans sa souveraineté. Mais la Bible nous explique que lorsque Adam avait péché, avant de pécher, nous l'avons lu la fois passée, le Seigneur lui a dit que s'il touchait à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien, il mourrait certainement. Alors, nous savons que par la suite, Adam a péché, il a touché à cet arbre-là. Mais nous voyons que physiquement, il n'est pas mort. Spirituellement, il était mort parce qu'il a été éloigné de la présence de Dieu. Spirituellement, ses yeux se sont ouverts. Il a pu voir qu'il était nu. Donc la vie que le Seigneur parlait à ce moment-là, ce n'était pas une vie physique, c'était une vie spirituelle. Il avait dit à Adam que si tu touches à ce fruit-là, certainement que spirituellement, tu mourras. Or, bien-aimé, la vie que nous sommes amenés à vivre à cause de la bonté de Dieu, c'est une vie restaurée, une vie que Adam avait perdue, mais que par le sacrifice de Jésus-Christ, le Seigneur est venu la restaurer afin qu'à un certain niveau, nous puissions l'expérimenter. À un certain niveau parce que la vie, selon Dieu, sera totale lorsque nous serons dans le ciel. Mais déjà sur la terre, nous pouvons expérimenter, je dirais, des portions de la vie en tout cas, que dans laquelle Adam était. Et c'est cette vie-là que le Seigneur, dans sa bonté, nous propose encore aujourd'hui, c'est cette vie que nous vivons dès l'instant où nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais pour recevoir cette vie, il fallait d'abord recevoir la révélation de Dieu. Il fallait comprendre qui était Dieu afin de pouvoir mettre en lui cette foi, mettre en lui cette confiance pour maintenant vivre cette vie. Or, ce que nous voyons, bien-aimés, lorsque nous observons le monde ou lorsque nous nous souvenons nous-mêmes d'où nous sommes venus, quelle vie nous menions, ou bien-aimés encore de manière beaucoup plus malheureuse, lorsque l'on voit encore la vie de certains chrétiens bien-aimés, dans laquelle il n'y a plus cette distinction entre l'homme vivant selon Dieu et les animaux. Il y a des hommes aujourd'hui bien-aimés qui vivent comme des animaux, et c'est comme ça que nous étions autrefois. Un animal bien-aimé, il n'a pas d'objectif. Il mange, il boit, il dort. S'il doit aller chasser, il va chasser, et la vie se répète, bien-aimés. Et beaucoup d'entre nous étions dans cette vie-là, sans objectif. manger, boire, faire la fête, et ainsi de suite, la vie, les jours se multiplient et ce sont les mêmes jours qui se répètent sans objectif. C'est pourquoi le Seigneur dit dans Jean 10:10 qu'il est venu donner la vie à ses brebis et la donner en abondance. C'est cette vie que le Seigneur est venu nous donner en abondance, une vie pleine, une vie avec un objectif, une vie avec une pleine communion avec Dieu. Et lorsque on n'a pas cette vie bien-aimée, on est semblable à des animaux qui ne savent pas quoi faire de leur vie, qui passent leur temps parce que ils s'ennuient certainement. On voit des concours de celui qui va manger le plus de pizza, concours de celui qui va manger le plus de spaghettis. Donc l'homme s'enfonce dans des bêtises qui amusent les autres hommes. D'autres n'ont rien à faire de leur temps, donc pour être inscrits dans le livre de records, ils escaladent des gratte-ciels, ils escaladent des immeubles, et tout le monde voit ça et ils applaudissent, bien-aimés. Donc l'homme est devenu fou, il n'y a plus de différence entre l'homme et l'animal. Ils s'embarquent dans des projets dans lesquels, je dirais, sans fin, vouloir chercher à aller vivre sur Mars ou sur la Lune, bien-aimés, dans quel but ? Dans des objectifs bien-aimés fous dans lesquels on dépense des millions et des milliards, alors qu'à côté d'autres meurent de faim, alors que l'homme se fait passer pour être bon, mais il utilise cet argent pour faire des armes, pour créer des fusées, pour aller, je ne sais pas, explorer quoi, bien-aimés, qui ne produira rien dans l'humanité, qui ne changera rien dans l'humanité. Surtout pour nous qui savons comment les choses vont se terminer, on voit que l'homme s'engage dans des projets qui ne produisent pas la vie. Des projets qui profitent tout simplement à une poignée d'hommes. Des projets qui ne profitent pas à ceux qui sont dans les lits d'hôpitaux, qui ne profitent pas à ceux qui n'ont pas de quoi manger, qui ne profitent pas à ceux qui manquent de l'argent, peut-être simplement pour creuser pour des puits d'eau, bien-aimés. Et l'homme s'embarque dans des projets, bien-aimés, totalement fous. Il n'y a pas de distinction entre les animaux et les hommes. Et la Bible nous le dit même, dans le livre de Jérémie, que même les animaux savent reconnaître leur maître, mais que l'homme, lui, ne sait pas reconnaître son créateur. Bien-aimé, il n'y a plus cette distinction que Dieu avait voulu faire depuis la création, lorsqu'il a créé l'homme et lorsqu'il a créé les animaux. Et cette vie, bien-aimé, le Seigneur est venu nous la proposer dans sa bonté, parce qu'il veut que nous puissions vivre comme lui. Il veut que nous puissions vivre à son image, telle que les choses étaient dès le commencement, mais malheureusement par le péché, a été détériorée. Alors, bien-aimés, comprenons que la vie que nous cherchons, bien-aimés, en nous disant que si Dieu me bénit, ma vie changera. Si j'ai tel travail, ma vie changera. Bien-aimés, ça ne changera pas. Parce que la vie, selon Dieu, ça n'a rien à voir avec le matériel. Beaucoup peuvent dire et utiliser même le passage que dans Ecclésiaste qui dit « L'argent répond à tout ». Donc pour justifier qu'on a besoin de l'argent, pour justifier qu'on a besoin de belles maisons, nous sommes les enfants du roi, il faut qu'on roule dans des belles voitures. Nous sommes les enfants du roi, il faut qu'on fasse la différence, il faut qu'il y ait des présidents, il faut qu'il y ait des ministres. Bien aimé, ça c'est la folie. Parce que la vie de Dieu ne se trouve pas dans les gouvernements humains, ne se trouve pas dans les solutions humaines. La vie de Dieu se trouve en Jésus-Christ. Celui qui n'a pas Jésus, combien même il peut avoir des milliards dans son compte en banque, Dieu le regarde comme un mort vivant. Parce que ce n'est pas cet argent-là, ce ne sont pas les biens, ce ne sont pas le nombre de maîtresses, le nombre de maris bien-aimés, que les hommes quelquefois aiment publier comme un palmarès, comme un CV dans lequel ils seraient reconnus dans la société. Ce ne sont pas ces choses-là qui vont nous amener dans la vie éternelle, bien-aimés. Mais les seuls qui entreront dans la vie éternelle, ce sont ceux qui auront reçu la vie de Dieu, qui auront reçu la vie de Dieu, qui ne peut être communiquée que par Jésus-Christ seul. Alors, bien-aimés, lorsque nous marchons dans la rue, avec les honneurs des gens, lorsque nous cherchons à dire « moi, je », à vouloir s'élever au-dessus de tout, bien-aimés, Dieu nous regarde comme des morts. Les gens qui ont la vie comprennent qu'on doit marcher dans l'humilité. Les gens qui ont la vie comprennent qu'il faut mettre notre confiance dans le Seigneur. Mais ceux qui n'ont pas la vie, mettre leur confiance dans leur propre vie, dans leur propre choix. Ils mettent leur confiance dans leur mariage. Ils mettent leur confiance dans leur salaire. À partir de leur salaire, ils vont régler tous les problèmes. Bien-aimés, c'est ça qui est la mort. Mais ceux qui ont la vie comprendront qu'on règle les problèmes selon Dieu, selon sa parole, selon la prière, bien-aimés, selon la volonté parfaite de Dieu. Mais cherchez, bien-aimés, à faire les choses d'une manière charnelle pour être reconnu des hommes, ça c'est la mort. Et nous prenons un passage, Luc chapitre 15, qui va nous expliquer qu'est-ce qu'est la vie selon Dieu. Aujourd'hui, bien-aimés, il y a des endroits où les hommes vont voir des spectacles présentés par d'autres hommes. Et ce sont des spectacles, bien-aimés, c'est comme si aujourd'hui nous, on allait au zoo. Des spectacles qui amusent, mais qui ne produisent rien du tout. Des hommes qui montent sur des scènes, soit en train de se moquer des handicapés pour faire rire, en train de sortir des blagues, bien-aimés, inutiles, et on ressort de là en n'étant même pas instruit. Et il n'y a pas de différence, bien-aimés, lorsqu'on va au zoo et on voit des animaux. Il n'y a pas du tout de différence entre les spectacles que les hommes proposent et le spectacle aussi que les hommes proposent, que les animaux proposent, pardon. On va au zoo, on lance des cacahuètes au singe, il va faire quelques pirouettes pour avoir encore d'autres cacahuètes. Et voilà comment les hommes aussi fonctionnent, bien-aimés. Et c'est ça qui est malheureux, alors que la Bible dit que Dieu nous avait créés à son image. Luc chapitre 15, au verset... Pardon. À partir du verset 11. Il dit encore, « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa tout son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeant et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Mon fils qui était mort est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Son fils était mort alors qu'il avait reçu un héritage, certainement considérable. Son fils était mort alors qu'il était libre de faire sa vie comme il l'entendait. La Bible dit qu'il vécut dans la débauche. C'est ça la vie que le monde propose. Tu es jeune, il faut t'en profiter. Il faut en profiter, tu es jeune. Profites-en pendant que tu as la force. Tu as encore la beauté. Il faut séduire, il faut t'habiller de telle manière. Et ce qui est malheureux, bien-aimé, c'est qu'on voit même des mamans des fois encourager les jeunes filles à mettre des vêtements compliqués. Tu es jeune, il faut en profiter. Moi, je n'ai pas pu m'amuser, mais toi, fais-le. Il faut sortir, tu restes toujours à la maison. Il faut en profiter. Et on dit, bien-aimé, c'est ça la vie. On voit ce que les informations nous montrent. Festival de Cannes, avec des tapis rouges. On voit ce que le monde nous montre, cabaret de tel nom ou de tel nom. Et on dit, c'est ça la vie. Il faut en profiter. De l'alcool, on vend aux jeunes. Les boîtes de nuit ouvertes aux jeunes. Et on dit, c'est ça la vie, il faut en profiter. Mais le père de ce jeune homme dit, malgré cette vie-là, mon fils était mort. Ça, c'est la mort, bien-aimé. La mort ne produira que la mort. Mais ce qui est de la vie produira aussi la vie. L'amour produit la vie. La paix produit la vie. La patience, la maîtrise de soi produit la vie. La bonté produit la vie. Bien-aimé, mais la débauche, ça produit quoi? Ça produit des viols. La débauche, ça produit quoi? Ça produit des consommations à la drogue, à l'alcool. Et tout ça qui va emmener à des accidents cardiovasculaires, à des accidents de la route, où souvent ce sont des innocents qui conduisaient tranquillement avec leur enfant dans la voiture, qui rencontrent une personne ivre qui roule à contresens. Et on dit, c'est ça la vie. Profitez-en, bien-aimés. Il faut bien s'habiller. Les vêtements, c'est ça la vie. On n'est pas contre les vêtements. Mais quand on fait du vêtement quelque chose qui doit nous différencier des autres, qui fait de nous, qui nous donne un certain statut dans la vie, bien-aimés, mais c'est ça la mort. Alors on n'est plus tranquille. Parce que lorsque la dernière mode sort, mais qu'on n'a pas les moyens d'acheter, c'est le manque de paix. C'est la jalousie vis-à-vis des autres. Parce qu'on n'a pas les moyens d'être à la page, bien-aimés. Ça, si c'était ça la vie, ça ne produirait pas telle chose. Mais lorsque ça produit quelque chose de négatif, bien aimé, alors c'est qu'on est dans la mort. Si aujourd'hui quelque chose nous manque parce qu'on a vu le voisin changer de voiture, que ça nous empêche de vivre, de manger, bien aimé, ce n'est pas ça la vie. La vie produira la paix, la vie produira la patience et l'amour. Mais tant que, bien aimé, nous sommes dans cette mort, alors soyons certains que nous ne rencontrerons pas le Seigneur. Il n'y a que ceux qui ont reçu cette vie. Et cette vie, gratuitement, parce que Dieu est bon, il nous la propose en acceptant Jésus-Christ, d'être dans la paix que le monde ne peut pas donner. Quelles que soient les épreuves, quel que soit le besoin, on a cette assurance-là que notre Dieu est bon et qu'il nous donnera au temps favorable. Mais lorsque nous oublions que Dieu est bon, bien-aimés, on entre dans la jalousie, on entre dans les querelles, dans des murmures, en cherchant des excuses pour nous justifier lorsque l'on pêche, bien-aimés, des justifications, oui mais. Mais devant Dieu, ça ne tiendra pas, parce que le Seigneur est bon. Vous savez que quelqu'un qui est bon, et on en parlera aussi, c'est aussi quelqu'un qui est juste, bien-aimés. Et Dieu justifiera d'une manière ou d'une autre. La vie selon Dieu, ce n'est pas la vie que le monde nous présente, ce n'est pas ce que nous recherchons à travers la convoitise, bien-aimés. Lorsque nous sommes dérangés parce que nous désirons quelque chose à tout prix, alors nous sommes dans la mort. Nous sommes dans la mort, quelle que soit la chose, même si c'est quelque chose que Dieu nous aurait promis, mais qui nous dérange au point qu'on n'arrive plus à prier, au point qu'on se rebelle contre Dieu, bien-aimés, posons-nous la question. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui avait promis? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui avait décidé de nous donner? Si c'est réellement du Seigneur, alors ça doit produire en nous quelque chose qui est conforme à la parole de Dieu. Tout ce qui produit en nous la mort, alors posons-nous la question de savoir si nous sommes dans la volonté de Dieu ou pas. Ce jeune homme est parti faire la vie, bon comme lui semblait. Mais on a vu bien aimé comment il a terminé. Les choses du monde qui peuvent nous garantir la vie pendant un temps, bien-aimés, un jour, elle nous trahira, un jour, elle nous jouera des tours. Ceux qui pensaient que quand j'aurai telle voiture, je serai beaucoup plus heureux. Mais quand la voiture arrive, la moindre rayure, allez, crise cardiaque. La moindre rayure, c'est la colère. On a vu, bien-aimés, dans certaines banlieues, une voiture cassée, le monsieur à la fenêtre, il voit ça, il sort la carabine, il tire, bien-aimés. Ce qu'il pensait qui allait lui procurer une vie, qui allait lui procurer une distinction dans la société, c'est cette même chose qui l'amène à faire des choses qui sont irréparables. Les choses, bien-aimés, pour lesquelles on pensait nous donner la vie, je vais acheter telle veste, je vais acheter tel vêtement. Et dès que tu arrives à la maison, peut-être le frère ou la sœur est passé par là emprunter, c'est des problèmes, ce sont des disputes, bien-aimés. Est-ce que c'est ça qui produit la vie? Tout ce qu'on croit, bien-aimés, qui va produire la vie, mais qui finalement amène à avoir un comportement qui ne glorifie pas Dieu, bien-aimés, c'est ça la mort. Ne croyons pas que la vie, nous allons la trouver dans ce que nous espérons. La vie, nous la trouverons dans ce que Dieu nous a donné, Jésus-Christ, pour vivre cette vie-là. C'est pourquoi, bien-aimés, nous voyons combien le monde, par toutes sortes de moyens, recherche la paix. On en a déjà discuté en créant des associations, en fabriquant des armes pour garantir la paix dans les pays. Mais malgré cela, les suicides continuent. Malgré cela, la débauche continue. Malgré cela, les guerres continuent. Parce que la véritable vie, celle qui produit cette paix, ne peut pas se trouver dans ce monde. Elle ne peut se trouver qu'en Jésus-Christ seul. Et il y a une chose, bien-aimée, qui est vraiment dommage chez les hommes, c'est qu'ils ont du mal à se servir de l'exemple des autres. Ils pensent toujours que ce qui arrive aux autres, ce n'est que pour les autres, que eux, ils sont différents. Ainsi, ils ne prennent point garde parce que le malheur n'arrive qu'aux autres. Le mal n'arrive qu'aux autres, bien-aimés. Mais voyons les exemples de combien de milliardaires se sont suicidés, des hommes politiques se sont suicidés, bien-aimés. Mais si c'était arrivé à un tel niveau pour être reconnu dans la société, ou un tel niveau de richesse dans le compte en banque, si c'était ça la vie, alors pourquoi certains tombent dans la drogue? Pourquoi certains se suicident, bien-aimés? Et l'homme a du mal à se servir de ces exemples pour voir, mais il y a des gens qui sont venus avant nous, qui pensaient avoir saisi la vie en touchant à telle ou à telle chose. Mais finalement, ils sont morts ou ils ont mal terminé. Mais après tout, ça n'arrive qu'aux autres, bien-aimés. Après tout, ça c'était leur vie, peut-être qu'ils avaient fait de mauvais choix. Bien-aimés, la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il n'y a rien de nouveau. Ce que nous pouvons voir a déjà existé. Et les gens qui sont tombés autrefois, d'autres personnes tombent encore aujourd'hui pour les mêmes causes. L'homme ne prend pas garde, il ne cherche pas à même, je dirais, avoir un soupçon, je dirais, d'intelligence pour ne plus faire les mêmes erreurs que les autres. Et c'est même dommage de voir quelquefois des parents conseiller des choses à leurs enfants. Peut-être ce sont même des choses qui leur ont fait du tort autrefois, mais peut-être comme c'est sa vie, avec lui ça sera différent. Bien-aimés, apprenons à voir, à examiner l'exemple que ceux qui sont venus avant nous nous ont laissé. C'est pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il parlait aux Corinthiens, il dit « Mais ce qui a été écrit pour vous, ce que vos pères ont fait, ça a été écrit pour votre instruction. Ça a été écrit afin que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs. Mais aujourd'hui, on reproduit ces mêmes choses, bien-aimés, qui ne produisent pas la vie. La vie, selon Dieu, ce n'est pas le vêtement et le boire, la Bible dit. Mais c'est la justice, la paix par le Saint-Esprit. C'est de cette vie-là que nous avons besoin, car c'est en expérimentant et en vivant cette vie-là que nous pouvons comprendre la volonté de Dieu pour notre vie. Dieu nous a fait le don de pouvoir le connaître, lui. Il s'est révélé à nous. À partir de cette révélation, nous pouvons comprendre et discerner que réellement la vie que Dieu nous propose est mieux que ce qu'on aurait pu vivre. Et mieux que l'avenir qu'on s'était projeté autrefois dans le monde. Parce que nous avons eu la révélation de Dieu. Et malheureusement, encore une fois malheureusement, bien-aimés, notre vie quelquefois témoigne. Notre vie peut amener les gens à se poser la question, mais le Dieu qu'il prêche, est-ce que vraiment il le connaît? La vie que nous témoignons quelquefois remet en doute la révélation que nous avons eue de Dieu. Est-ce que c'était une révélation partielle? Est-ce que c'était une révélation totale? Est-ce que c'était une vraie révélation? Ou bien est-ce que c'était tout simplement la vision d'un ange? Et tout est remis en cause dans notre manière de vivre. Si réellement nous avons eu la révélation de Dieu, si réellement aujourd'hui nous pouvons comprendre que la vie que le Seigneur nous propose est une vie qui est totalement incomparable à celle que le monde nous propose, bien-aimés, alors on doit aussi le témoigner. On doit aussi le vivre. Notre vie doit témoigner que réellement, nous avons connu, nous avons goûté que la vie que Dieu nous propose est bonne. Mais ce n'est pas ce que nous voyons. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains chapitre 2 que le nom de Dieu est blasphémé. Parce qu'il y a même des gens du dehors qui se comportent encore mieux que des enfants de Dieu. Les gens du dehors se comportent encore même mieux que les chrétiens. Ils ont plus de facilité quelquefois à pardonner. Ils ont plus quelquefois de facilité à aider, à soutenir. Mais le chrétien, lui, il vit, je dirais, comme si c'est comme si les rôles sont inversés. Et ceux de dehors qui voient ça, mes bien-aimés, ils se posent la question, mais à quoi ça sert de devenir chrétien, puisque moi, je suis mieux que lui. Je vois lui, il ne fait que s'énerver. Après le dimanche, il va à l'église. Mais à quoi ça sert? Le païen, à côté de lui, il est dans le calme. Il est dans la patience. Il est dans la maîtrise de soi. C'est étonnant, bien-aimés, de voir quelquefois... Lorsqu'il y a des reportages sur quelquefois des maladies rares, de voir comment les païens s'accrochent, de voir comment ils persévèrent, et de l'autre côté de voir moindre épreuve, le chrétien en train de pleurer, en train de s'agiter, en train de se rebeller contre Dieu. C'est étonnant. Et les gens du dehors, lorsqu'ils voient ça, ils disent « Oui, mais à quoi ça sert ? À quoi ça sert autant rester païen ? Puisque si c'est ça, être enfant de Dieu, eh bien, on est pareil finalement. On est pareil. Et beaucoup, bien-aimés, le croient qu'on est pareil. » Parce qu'ils font de bonnes œuvres, ils font de bonnes actions, ils soutiennent des associations d'aide humanitaire. Alors que le chrétien va vivre dans son coin, quelquefois isolé chez lui. Et les gens disent, mais c'est ça le chrétien. Mais autant rester païen. Parce que notre vie ne témoigne pas que réellement nous avons connu le Seigneur. Or, bien-aimés, à travers la vie que Dieu nous a donnée, la vie que nous devons manifester, le païen doit discerner que non, celui-là, il est différent. Comment ça se fait que même dans l'épreuve, il a la joie? Comment ça se fait que même dans les difficultés, il chante? Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Je dois chercher à connaître. Qu'est-ce qu'il a de plus que moi, bien-aimé? Notre vie doit donner envie aux païens de rencontrer, de connaître le Seigneur. Parce que la Bible dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et vous savez, la pensée de l'éternité, à un certain niveau, ça peut être quelque chose de vague, quelque chose que l'homme ne discerne pas totalement. C'est pourquoi certains, par cette soif que Dieu a mis en eux par rapport aux choses éternelles, se retrouvent des fois dans des sectes, se retrouvent quelquefois à voir des féticheurs, à voir des voyants, parce que l'homme est attiré vers quelque chose qui est mystérieux, quelque chose qui est éternel, bien-aimé. Donc c'est une connaissance, en tout cas c'est un désir qui n'est pas totalement étanché parce qu'ils ne l'ont pas encore discerné. Mais le jour où ils entendent la parole de Dieu, ils comprennent finalement que oui, ce que mon âme cherchait, c'était ça. Le jour où ils voient un chrétien vivre la vie de Dieu, ils comprennent que oui, la vie que je cherche, réellement, c'est ça. Mais lorsqu'ils voient les enfants de Dieu abattus, les enfants de Dieu dans les tourments, les enfants de Dieu emprunter des voies bizarres pour essayer de régler leurs problèmes, entrer dans des compromis, bien-aimés, ils n'ont pas du tout envie. Parce qu'il y a aujourd'hui des païens qui sont très très honnêtes. Donc il y a des gens certainement que nous connaissons où nous pouvons croire vraiment qu'ils sont chrétiens. Il y a des gens qu'on voit dans sa manière de parler, dans sa manière de conseiller, dans sa manière d'aimer, on pourrait croire qu'il est enfant de Dieu. Finalement, il ne l'est pas. Mais celui qui est enfant de Dieu manifeste un comportement qui est totalement inversé, totalement contradictoire à la vie que Dieu propose. Dieu est bon, bien-aimé. Il nous propose cette vie gratuitement. Mais cette vie doit nous amener, bien-aimés, à renoncer à ce que le monde nous propose. C'est une vie qui ne peut être expérimentée, vécue, que si nous reconnaissons que le monde, ce que le monde nous propose est mauvais. Que si nous réalisons que ce que le monde nous propose nous mènera à la mort. On ne peut pas vivre la vie de Dieu si on aime encore le monde. Bien-aimés, c'est impossible. Et beaucoup des fois disent, mais je ne comprends pas, moi je prie, mais le problème me dérange toujours. Je ne comprends pas, je prie, mais je n'arrive pas à voir la paix. Donc en quelque sorte, c'est comme si spirituellement, il y avait un problème avec le Seigneur, c'est comme s'il y avait un problème avec la parole de Dieu. Or, nous avons dit que Dieu est bon. Nous reconnaissons que Dieu est bon. Donc si Dieu est bon, il ne peut nous donner que de bonnes choses. Mais si cette chose-là ne fonctionne pas comme on l'attendait, c'est que forcément, il y a des choses que nous n'avons pas laissées. Pourquoi? Parce que la vie selon Dieu est incompatible avec la vie du monde. On ne peut pas chercher à vivre la vie de Dieu et en même temps à vivre la vie du monde. Et c'est ce qui nous empêche d'avoir un total amour de la vie de Dieu. C'est ça qui nous empêche de vivre totalement la vie de Dieu parce que nous voulons de la vie de Dieu, que nous trouvons bonne, parce que nous l'avons un peu expérimentée. Mais en même temps, il y a des choses du monde, ah, la musique là est encore un peu bonne, donc c'est difficile, bien aimé. Et lorsqu'il y a des mélanges, ça ne peut pas fonctionner. Lorsqu'il y a des mélanges, ça ne peut pas fonctionner. Aujourd'hui, en chimie, bien aimé, il y a des formules, peut-être pour faire un médicament ou qui est déjà écrit. Venir ajouter un autre ingrédient, ça va détruire la formule de base, bien aimé. Et avec le Seigneur, c'est pareil. La vie qu'il nous donne est totale et parfaite. Vouloir ajouter un peu de sel, un peu de foie, vouloir assaisonner un peu pour se dire, ben, il manque un peu. Peut-être quand madame fait la cuisine, bah, il manque un peu de sel, on ajoute. Bien aimé, avec Dieu, c'est parfait. Il n'y a pas besoin d'ajouter. Et lorsqu'on cherche à ajouter quelque chose, ça gâche tout. Ça gâche tout et beaucoup d'entre nous, nous ne vivons pas la vie de Dieu parce qu'il y a encore des éléments du monde que nous n'avons pas abandonnés. Et on se pose des questions. Mais pourquoi ceci? Mais pourquoi cela? Mais pourquoi cette vie? Pourquoi c'est dur? Je n'arrive pas à prier, ça fait du temps. Bien aimé, le Seigneur sait que la prière est bonne. C'est le moyen qu'il nous a donné pour communier avec lui. Pourquoi le Seigneur nous priverait-il de prier? Puisque c'est le moyen qu'il nous a donné pour être en communion avec lui. Donc si la prière ne marche pas, c'est que c'est nous qui avons un problème. Des fois, le Seigneur peut le permettre, c'est vrai, pour nous pousser à le chercher davantage. Mais bien souvent, lorsque la vie chrétienne devient lourde, c'est parce qu'il y a des choses qui viennent rendre cette vie difficile, rendre cette vie lourde, puisque ce que Dieu nous a donné est bon, ce que Dieu nous a donné est parfait. Et nous devons nous contenter en acceptant que cette vie-là est la véritable vie. La vie, bien-aimée, de marcher, de faire du sport, de discuter, de manger, de boire. Bien-aimée, si on se contente de cette vie-là, soyons certains qu'on ira les deux pieds en enfer. Donc ça, c'est une réalité. L'enfer existe, bien-aimé. Donc ne pensons pas qu'en nous contentant du minimum, ça suffira pour entrer dans la vie éternelle. On doit faire le maximum avec Dieu. Non pas par notre propre force, mais parce que Dieu nous a donné cette vie qui peut faire le maximum. Parce que la vie que Dieu nous a donnée par le Saint-Esprit n'a soif que de pratiquer la parole de Dieu. Cette vie-là n'a besoin que de la parole de Dieu pour s'exprimer. Donc avec les conseils mondains, avec la colère, avec la jalousie, bien aimé, cette vie ne peut pas s'exprimer. La vie selon Dieu, ce n'est pas la vie comme le monde nous le propose, mais c'est la vie comme Dieu nous la propose. Nous lisons le psaume 107. Verset 1er, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivent dans une ville habitable, qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Amen. Ceux qui étaient dans le désert, dans la solitude. Bien-aimés, vous savez, la solitude, le désert, ce n'est pas forcément l'endroit qui va manifester où nous sommes isolés, où nous sommes seuls. La solitude, bien-aimé, on peut être entouré de plusieurs personnes et tu peux avoir un problème où tu as l'impression que personne ne te comprend. Et bien que tu es entouré du monde, tu vis ce moment comme si tu étais seul parce que ceux qui sont en face ne te comprennent pas. Des fois, tu vas voir le médecin pense même, te laisse croire que oui, mais là, vous faites semblant, vous imaginez une maladie. Donc, tu as l'impression que le médecin ne comprend pas ce que tu vis. Tu peux aller voir des psychologues bien-aimés, des psychiatres qui vont prétendre soigner les maladies de l'âme. Or, ça ne se soigne que par Dieu seul. Et tu as l'impression qu'ils ne comprennent pas. Et la preuve, bien-aimés, qu'ils ne comprennent pas, bien-aimés, qu'ils n'ont pas la solution, on va te bourrer de médicaments pour que tu laisses tout le monde tranquille. Et là, tu passes toute la journée à dormir. Ton problème est réglé, bien-aimé. Mais celui, bien-aimé, qui a le Seigneur, combien même il se retrouve dans le désert, combien même il se retrouve seul dans sa cellule de prison, celui-là ne souffre pas de la solitude. Et la Bible dit, c'est comme ça que nous étions dans la solitude, bien-aimés. Nous avons cherché quelquefois à régler nos problèmes en passant dans telle maison, en passant peut-être dans telle église, en prenant tel médicament. Mais le problème était toujours là. Le monde ne nous comprenait pas. Les médicaments n'arrivaient pas non plus à nous comprendre, bien-aimés, pour guérir la maladie. Mais lorsque nous avons rencontré Dieu, nous avons compris que oui, finalement, nous ne sommes plus seuls. La Bible dit, nous étions tous errants, chacun suivait sa propre voie. C'est dans cette condition que le Seigneur est venu nous trouver. La Bible dit que dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel et l'Éternel les délivra. Ils étaient assoiffés et affamés. Et la Bible dit que leur âme était languissante. Donc cette soif, cette faim qu'ils avaient n'était pas liée à la nourriture. Parce que lorsque tu n'as pas la paix, même si on te donne un plat, tu ne pourras pas le manger, bien-aimé. Même si tu as du caviar, tout ce que ton corps aime. Mais si ton âme n'est pas tranquille, tu n'as même pas l'appétit pour manger ces choses-là. Et la Bible nous dit que l'âme était languissante. Donc la soif, la faim qui était là, était une soif, une faim qui était liée au désir de l'âme. Donc l'âme était seule. L'âme était seule, bien-aimée. Et lorsqu'on est dans cet état, bien-aimée, est-ce qu'on peut dire que l'on vit? Vous pensez, bien-aimée, que ceux qui sont incarcérés, mais qui n'ont pas Dieu dans leur Seigneur, vous pensez qu'eux, ils vivent? Ceux qui sont dans les lits d'hôpitaux, bien-aimés, qui n'ont plus que peut-être que la bouche pour parler. Les membres sont morts et en plus, ils ne connaissent pas le Seigneur. Est-ce que vous pensez qu'ils vivent? Combien bien-aimés de malades souffrant d'une maladie dont la médecine ne pouvait plus ont demandé à mourir? Parce que nous sommes dans un état qui a interdit l'euthanasie, mais combien ont demandé à mourir? Mais si réellement ils étaient en vie, selon Dieu bien-aimé, est-ce qu'ils demanderaient la mort? Ils demandent la mort parce qu'ils ne vivent plus. Ils ne vivent plus, ils ne sont pas dans la paix, ils n'ont pas la joie, ils n'ont pas de bonheur. Alors à quoi ça sert de vivre? Ceux qui se suicident, bien-aimés, alors qu'ils ont des comptes en banque remplis, est-ce que vous pensez que c'est parce qu'ils vivent? Eux savent que malgré ce qu'ils ont, ils sont dans la mort parce qu'il n'y a plus de goût à la vie, il n'y a plus de plaisir. La vie, selon Dieu, bien-aimés, c'est cette vie qui consiste à rassasier l'âme. Et bien que nous pouvons tout avoir, bien-aimés, on peut se retrouver dans la solitude. Mais la Bible dit que Dieu est bon. Louez-le, car sa bonté, sa miséricorde dure à toujours. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et Dieu les délivra. Gratuitement, alors que nous étions dans la solitude, nous étions dans la mort spirituelle, gratuitement le Seigneur nous a accueillis. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Il dit qu'il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Bien-aimés, nous sommes venus dans notre état et le Seigneur nous a acceptés parce qu'il est bon. Nous lisons verset 10. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Ils humilièrent leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il rompit leurs liens. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Amen. D'autres étaient enchaînés dans les ténèbres. Dans les ténèbres, la Bible dit, parce qu'ils ont refusé le conseil du Très-Haut. Ils se sont rebellés volontairement contre Dieu. Ils ont transgressé volontairement la loi de Dieu. Cet même état dans lequel était Adam, qui avait consciemment désobéi à la parole de Dieu. Et ils se sont retrouvés dans des problèmes. Combien de fois, bien-aimés, nous nous sommes retrouvés dans des difficultés parce que nous avons refusé d'obéir. Combien de fois nous avons péché volontairement, même quelquefois on a même prémédité le péché, et on s'est retrouvé dans des difficultés, à l'ombre de la mort, bien-aimé. Parce que lorsque le péché nous saisit, bien-aimé, on devient comme mort. C'est pourquoi David dit que tant qu'il ne confessait pas son péché, il dit ses os se brisaient, donc ses os se consumaient, il ne pouvait pas vivre ainsi, bien-aimé. Et beaucoup aujourd'hui qui sont dans des problèmes, quelquefois psychologiques, ce sont des personnes qui ont vécu quelquefois longtemps dans le péché, qui n'arrivent pas à extérioriser, qui n'arrivent pas à exprimer. On voit aujourd'hui, bien-aimés, combien de personnes sont enchaînées, combien de personnes sont dans les ténèbres, des personnes qui ont tué, des personnes qui ont commis des abominations et aujourd'hui ne peuvent vivre qu'avec des médicaments. Combien de personnes qui ont fait des guerres aujourd'hui ne vivent plus. Donc c'est cauchemar sous cauchemar, les nuits sont très courtes. Parce qu'ils ont ce péché-là et comme ils ne connaissent pas Dieu, ils ne savent pas qu'en les confessant, Dieu peut les libérer. Donc tant qu'on est dans ce péché-là, et ça nous empêche de vivre. Mais si Dieu ne se révèle pas à nous, bien-aimés, on ne saura pas que tout simplement en confessant, on va être libéré. Et la Bible dit, mais parce que Dieu est bon, malgré que ces gens avaient été dans la rébellion, qu'ils avaient négligé le conseil de Dieu, ils ont quand même crié à Dieu. Et parce que Dieu est bon, Dieu a écouté. Bien-aimés, combien de fois, même en tant qu'enfants de Dieu, nous avons fait le mal, mais nous nous sommes repentis. Et parce que Dieu est bon, il nous a encore acceptés. Et certains disent, mais c'est trop facile. Oui, mais Dieu est bon. Est-ce qu'on peut changer la bonté de Dieu? Il dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner. Si nous confessons nos péchés, il nous pardonne automatiquement, même lorsque nous avons péché volontairement. Ça, c'est la bonté de Dieu. Et à cause de cette bonté-là, bien-aimés, où le Seigneur nous a pardonné facilement, où il nous a acceptés, même lorsque nous avons consciemment négligé sa parole, bien-aimés, vous pensez qu'au jour du jugement, Dieu va pardonner encore, lorsqu'il a tout donné, lorsqu'il a tout mis en œuvre pour que nous puissions pleinement vivre cette vie qu'il nous donne. Et à ce moment-là, bien-aimés, vous voulez que Dieu pardonne encore. C'est pourquoi la Bible dit que lorsque Dieu jugera, les justes se réjouiront. Les justes se réjouiront, c'est-à-dire au jour du jugement, bien-aimés, il n'y aura plus ce sentiment de pitié. Même si ce sont le voisin avec lequel tu as grandi, si c'est peut-être des gens, même de ta famille, Bien-aimés, au jour du jugement, c'est-à-dire qu'on pourra comprendre les choses comme Dieu. Il n'y aura pas ce sentiment de pitié. Pourquoi ? Parce que Dieu aura tout fait pour accepter l'homme. Dieu aura tout fait pour que l'homme puisse vivre et expérimenter sa vie, expérimenter l'avant-goût du ciel. Dieu aura tout fait, bien-aimés. Malgré que les gens ont refusé, la Bible dit qu'ils invoquèrent Dieu et Dieu les délivra. Ils étaient dans la mort, bien-aimés. Une mort causée par la désobéissance. Et c'est cette mort dans laquelle nous étions aussi. Mais aujourd'hui, encore gratuitement, le Seigneur nous propose cette vie. La Bible dit au verset 17, « Les insensés, par leur conduite coupable et par leur iniquité, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Il les fit échapper de la fosse. » Qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, qu'ils offrent des sacrifices d'actions de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Amen. Ils étaient dans l'angoisse. Quand on est dans l'angoisse, bien-aimé, comme je l'ai dit, il n'y a plus d'appétit. Quand on est dans l'angoisse, on va s'énerver facilement. Quand on est dans l'angoisse, pour certains, on demande même à mourir. La Bible dit qu'ils étaient dans l'angoisse à cause de leur propre faute. Ils étaient dans l'angoisse parce qu'ils ont réfléchi comme des insensés. Vous voyez, bien-aimés, comment Dieu est bon. Malgré les conséquences négatives produites par notre désobéissance, produites par notre manque de discernement, le Seigneur est toujours prêt à nous racheter. Le Seigneur est toujours prêt à nous donner sa vie. C'est pourquoi la Bible dit qu'il loue l'Éternel pour sa bonté en faveur des fils de l'homme. Dieu est bon, bien-aimé. Et cette vie-là, il nous la propose gratuitement. Cette vie dans laquelle nous pourrons chaque jour être dans la paix, chaque jour être dans l'assurance. Cette vie que Dieu nous a donnée en échange du sang de son fils, bien-aimé. En échange du sang de son fils, Dieu nous propose cette vie-là. Notre vie doit témoigner que réellement nous avons connu que Dieu est bon. Si Dieu est bon, alors pourquoi ne pas lui confier toute notre vie? La vie chrétienne, ce n'est pas une vie simplement théorique. La vie chrétienne, c'est une vie de démonstration. On doit démontrer que nous sommes enfants de Dieu, non pas en le criant sur les toits, mais on doit le démontrer dans notre manière de vivre. Mais alors, si nous confessons que Dieu est bon, si nous chantons que Dieu est bon, notre vie doit témoigner que oui, on a compris que Dieu est bon, bien-aimé. Et comme je le disais tout à l'heure, si Dieu est bon, alors c'est normal aussi qu'il puisse manifester sa justice. Aujourd'hui, bien-aimé, la justice, si une personne est bonne, automatiquement, il faudra qu'elle juge entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Une personne qui est bonne, qui laisse le mal, bien-aimé, est-ce qu'on pourra dire que Dieu est bon? Si finalement, après toute cette vie que nous avons passée, après tout ce que nos yeux ont vu, tout ce que nos oreilles ont entendu, bien-aimé, entre la pédophilie, entre les viols, entre les tueries, entre les massacres, bien-aimés, et finalement tous on se retrouve au ciel. Est-ce qu'on pourra dire que Dieu est bon? Non, si Dieu est bon, il faudra bien qu'il rende justice. Quelqu'un qui est juste cherchera à rendre à chacun son droit. Quelqu'un qui est mauvais fera du parti pris, parce que c'est quelqu'un de sa famille, parce que c'est quelqu'un qu'il aime, même si on le juge bon, on va s'arranger pour que finalement il soit acquitté. Mais quelqu'un qui est bon, même si c'est lui-même qui l'a mis au monde, fera la justice conformément à la parole de Dieu, conformément au bon sens, bien-aimé. Alors, parce que Dieu est bon, il faudra aussi qu'il rende à chacun selon ses œuvres. Parce que Dieu est bon, il faudra qu'il fasse la différence entre ceux qui sont à lui et ceux qui ne sont pas à lui. C'est pourquoi la Bible dit dans Malachie que Dieu fera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Il le fera parce qu'il est bon et dans sa justice, il est obligé, dans sa bonté, il est obligé de manifester cette justice. Dans le livre de Genèse encore, bien-aimé, Dieu avait demandé à Adam de ne pas toucher à cet arbre-là. Mais Adam a touché. Dieu, la Bible dit qu'il avait créé selon sa ressemblance, il l'avait créé à son image. Dieu avait mis tout son amour dans la création, tout son amour pour créer Adam et Ève. Mais Adam a péché. Est-ce que Dieu pouvait laisser, sous prétexte qu'il était bon, donc il fallait tout excuser, sous prétexte qu'il était bon, qu'il fallait accepter le mal? Quelqu'un qui est bon n'acceptera pas le mal. Et malgré que c'est Dieu lui-même qui avait créé, il a été obligé de juger Adam. Tu travailleras à la sueur de ton front. la femme enfantera avec douleur. Le Seigneur a été obligé de juger parce qu'il est bon. Combien même ça a pu lui faire mal, bien-aimé, mais quelqu'un qui est bon, même si c'est quelque chose qui va le blesser, il ne peut pas faire autre chose que de rendre justice. Et Dieu rendra justice tôt ou tard, bien-aimé, parce qu'il est bon. La manifestation de sa justice, c'est aussi la démonstration de sa bonté. Et il y a ceux qui diront, peut-être que c'est trop dur, mais il y a ceux qui ont réellement eu la révélation de Dieu et qu'ils comprendront que oui, si réellement Dieu est bon, il doit aussi juger. Le mal que l'on voit sur cette terre, bien-aimé, on ne peut pas accepter que finalement tout se finira comme ça. Comme certains disent que non, après la mort, c'est terminé. Donc autant profiter. Donc continue à tuer, continue à être un dictateur, puisque de toute façon, après la mort, il n'y aura plus rien du tout. Bien-aimé, c'est ça qui est trop facile. Mais ce qui est juste, c'est que chacun puisse avoir selon ses œuvres. Et non pas selon la justice des hommes, qui peut être trompé, bien-aimé. Il y a des innocents qui sont en prison aujourd'hui. Mais il y a aussi des gens qui ont tué qui sont dehors. Pourquoi ? Parce que l'homme juge en fonction de ses critères. Mais la Bible dit que Dieu sonde le cœur et le rein. Il y a des gens qui n'ont jamais tué avec leurs propres mains, mais ils ont simplement commandité. Même eux auront aussi leur salaire, parce que Dieu est bon. De point de vue extérieur, on peut dire qu'il n'a rien fait. Mais Dieu sait, parce que lui, il voit toute chose, qu'il est à la source, que le véritable coupable, c'est lui. Et parce que Dieu est bon, il faudra qu'il rende à chacun selon ses œuvres, bien-aimés. Nous lisons dans Luc chapitre 4. Ou bien, excusez-moi, on va lire la même version, en tout cas dans Ésaïe 61. Elle est plus complète. Ésaïe 61, à partir du verset 1er. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à la gloire de Dieu. Et dans Luc 4, verset 18, lorsque le Seigneur entre dans le temple, déroule le livre d'Ésaïe, il va lire ce passage-là. Mais dans la lecture de ce passage, le Seigneur s'est arrêté pour publier une année de grâce. Sa première venue sur la terre était liée à la révélation de Dieu qui était venue apporter, était lié à la délivrance des captifs, à la guérison, était lié au fait qu'il était venu donner, apporter une espérance à tous ceux qui étaient perdus, à tous ceux qui étaient opprimés. Et volontairement, bien-aimé, il n'a pas lu la suite que nous lisons là, dans Ésaïe 61, et un jour de vengeance de notre Dieu. La seconde venue de Jésus, bien-aimé, marquera un jour de vengeance. Lorsque le Seigneur sera venu, qu'il va enlever ceux qui lui appartiennent, bien-aimé, ça sera un jugement pour ceux qui vont rester, pour ceux qui avaient fait le mal, pour ceux qui n'avaient pas accepté la vie de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur est venu dans un premier temps apporter la bonne nouvelle. Il est venu mourir sur la croix, mais il viendra aussi pour juger, parce qu'il est bon. Bien-aimé, vous pensez que le Seigneur Jésus avait porté sur lui nos péchés. Dieu l'a jugé, parce qu'il avait nos péchés sur lui. Il a dit, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dieu l'avait abandonné, parce que la situation dans laquelle le Seigneur était lorsqu'il portait nos péchés, c'était une situation où il était vu comme sale avec le péché sur lui, et le Seigneur ne pouvait pas tolérer cette présence-là. Il était obligé de juger, de condamner le péché. Le Seigneur a dit, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Bien-aimé, pensez-vous que le Seigneur Dieu, qui n'a pas épargné son propre fils dans sa justice, il épargnera tout homme qui aura volontairement refusé la vie que Dieu lui propose gratuitement? Bien-aimé, Si Dieu est bon, il faudra aussi qu'il juge, bien-aimé. Si Dieu est bon, il faudra qu'il juge. Donc si le Seigneur n'a pas épargné Jésus-Christ, bien-aimé, vous pensez même qu'il épargnerait ceux qui se disent enfants de Dieu. Enfants de Dieu, bien-aimé, nous le sommes. C'est vrai sur la terre. Mais bien-aimé, cela prendra son sens véritablement lorsqu'on sera avec Dieu. On peut se dire enfant de Dieu parce qu'on a accepté le Seigneur. Mais si le Seigneur revient au moment où il nous trouve dans un péché, bien-aimé, ça ne tiendra pas de dire « je suis enfant de Dieu », ça ne marchera pas, bien-aimé. Le Seigneur a dit « ce ne seront pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans la vie éternelle, mais ce sont seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Beaucoup diront « Seigneur, nous avons prophétisé. Seigneur, j'ai été baptisé. Seigneur, je t'avais accepté. » Le Seigneur dit « je dirai, je ne vous ai jamais connu. » Viendra un temps, bien-aimé, parce que Dieu est bon, où il devra manifester sa justice. C'est vrai que, d'un point de vue général, nous avons des fois du mal à comprendre la justice de Dieu. Quelquefois, ça peut nous paraître dur lorsqu'on lit souvent dans l'Ancien Testament que ça peut paraître difficile, ça peut paraître dur. Et ça l'est, bien-aimé, pour les gens du dehors qui n'ont pas eu la révélation de Dieu. Ça l'est pour les gens du dehors qui n'ont pas la vie de Dieu. Or, qu'il n'y a pas que par sa révélation et par la vie qu'il nous donne que nous pouvons comprendre sa justice, que nous pouvons confesser que Dieu est bon malgré ce que nous voyons. Les gens du dehors voient des catastrophes naturelles. Mais si Dieu existe, pourquoi toutes ces choses-là? On voit les maux qui se passent, les guerres. Mais si Dieu existe, pourquoi toutes ces choses-là? Bien-aimés, parce qu'ils n'ont pas eu sa révélation. Mais nous qui avons eu la révélation, quelle excuse on aura devant Dieu? Aujourd'hui, nous pouvons comprendre que les tremblements de terre, nous pouvons comprendre que les guerres sont la conséquence du péché. Parce que nous avons eu cette révélation. Et par la vie que Dieu nous donne, nous pouvons accepter ces jugements. C'est pourquoi, bien-aimés, il n'y aura pas d'excuse. Le monde ne comprend pas parce qu'ils n'ont pas eu cette révélation de Dieu. Ils n'ont pas cette vie de Dieu pour accepter de vivre toutes ces difficultés que le monde manifeste. Parce que pour eux, c'est impossible qu'un Dieu qui est bon, un Dieu qui existe, puisse permettre ces choses-là. Parce qu'ils n'ont pas eu cette révélation. Mais nous, bien-aimés, nous avons reçu la vie de Dieu. Nous avons reçu l'Esprit Saint de Dieu. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 2 que l'Esprit qui vit en nous sonde les profondeurs de Dieu. Par le Saint-Esprit, nous pouvons comprendre et reconnaître que oui, Dieu a jugé et il fallait que ça soit ainsi, bien-aimé. Et souvent, ça nous arrive nous-mêmes de nous rebeller contre le Seigneur, bien-aimé. Lorsque Dieu va permettre peut-être des événements difficiles dans notre famille, alors qu'on a prié pour leur conversion, parce qu'on ne comprend pas ce que Dieu fait, on commence à se rebeller. Il y a même des chrétiens, bien-aimés. La Bible dit dans Matthieu 24 que parce que l'iniquité va s'accroître, beaucoup vont abandonner la foi. Beaucoup, lorsqu'ils vont voir tous les malheurs sur cette terre, vont même douter de l'existence de Dieu. Alors qu'ils auraient eu sa révélation, alors qu'ils auraient eu la vie de Dieu, mais ils viendront à douter, bien-aimés. Ils viendront à douter, est-ce que réellement Dieu existe? Est-ce que réellement Dieu est bon? Et la Bible dit, l'iniquité va s'accroître et beaucoup vont s'égarer, beaucoup vont sortir. Si Dieu est bon, c'est normal qu'il manifeste sa justice, bien-aimés. Et si nous, à notre niveau, nous n'acceptons pas cela et nous ne le comprenons pas, bien-aimés, on fera partie des prédicateurs qui diront que bon, quelqu'un qui a quand même fait du bien toute sa vie, mais il ne peut pas aller en enfer. Mais l'abbé Pierre, quand même, est-ce que vraiment elle a été en enfer? Mère Teresa, quand même, est-ce qu'elle a été en enfer? Si nous ne sommes pas positionnés par rapport à la justice de Dieu, nous allons tolérer des péchés, nous allons excuser des péchés. Or, le Seigneur est catégorique, bien-aimé. Nul ne peut aller au Père que par lui. Le Seigneur reviendra chercher une église sans tache ni ride. Le salaire du péché, c'est la mort. Le Seigneur a été clair sur la question du péché. Et si nous, bien-aimés, nous sommes tolérants vis-à-vis du péché, alors nous ne comprendrons plus la justice de Dieu et nous allons commencer à tout excuser. Quelqu'un vient nous présenter un péché, bon, Dieu comprend, petit à petit, tu vas changer. Bien-aimés, c'est faux. Si nous ne sommes pas positionnés que parce que Dieu est bon, il doit aussi manifester sa justice, nous allons excuser le péché. Et vous savez, à force d'excuser le péché, on va s'excuser nous-mêmes quand on va pécher. On va trouver des raisons. On va trouver des excuses. Jusqu'au jour où Dieu viendra, qu'est-ce qu'on dira, bien-aimé? Son propre fils n'a pas été épargné. Dieu a montré qu'il était juste. Non pas simplement en nous jugeant nous, parce que ça pourrait être facile. Comme aujourd'hui dans le monde on voit, c'est facile, surtout dans certains pays, de faire justice lorsque l'on touche à sa famille, lorsqu'on a une certaine position. Mais lorsque ce sont ses propres enfants qui font le mal, bien-aimés, vous croyez que la justice est la même? Parce que ce sont ses propres enfants, on les épargne, on les met de côté. Mais que ce soit les enfants des autres qui fassent des bêtises, bien-aimés, sans hésiter, on va régler le compte. Mais Dieu ne fera pas cette différence-là, bien-aimés. S'il ne l'a pas fait pour son propre fils, bien-aimés, il ne le fera pas non plus pour nous. Il ne le fera pas, Dieu jugera, parce qu'il est bon. Et si nous, nous avons connu que Dieu est bon, alors nous devons aussi accepter et nous réjouir que ce jour arrive, puisque notre espérance est aussi fondée sur la justice de Dieu. À quoi ça sert, bien-aimé, de souffrir sur la terre si finalement, à la fin, il n'y a pas de justice? Mais à quoi ça sert, bien-aimé? Le Seigneur a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Le Seigneur nous garantit qu'il jugera. Et parce que nous avons compris le Seigneur, nous avons compris qu'il jugera, qu'il nous rendra justice un jour, alors, bien-aimé, on pourra accepter les injustices. Parce qu'on se dit, ben, c'est pas grave, c'est pour un temps. Viendra un temps où Dieu justifiera. On pourra accepter d'avoir tort. On pourra accepter d'être des perdants sur cette terre. Parce qu'on sait qu'un jour, Dieu justifiera. Mais celui qui n'a pas compris la justice de Dieu cherchera à se faire justice lui-même. Moindre chose, la colère. Moindre chose, il va lever la main. Parce qu'il n'a pas confiance en la justice de Dieu. Le Seigneur dit dans le psaume 137, « Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme le soleil à son midi. » Donc le soleil à son midi, c'est là où il brille, là où il chauffe. Tout le monde voit que le soleil est là. Et Dieu dit que le jour où il justifiera, les choses seront claires. Il n'y aura pas de flou. Bien-aimés, il n'y aura pas besoin d'appeler des témoins. Il n'y aura pas besoin de faire appel à l'ADN, de faire appel aux empreintes. Ça sera clair, bien-aimés. Les choses seront bien établies. Il n'y aura pas besoin de prouver quoi que ce soit. Et Dieu dit que lorsque lui justifiera, les choses seront ainsi. Bien-aimés, mais tant que nous sommes forts, que nous pensons, que nous sommes capables, bien-aimés, alors le Seigneur nous regarde aussi. Quand nous ne comprenons pas la justice de Dieu, nous allons commencer à faire les choses de manière charnelle pour chercher à résoudre nos problèmes. Or, Dieu est bon. Si nous avons connu que Dieu est bon, alors faisons-lui confiance. Quel que soit ce que nous pouvons voir, prions tout simplement en ayant l'assurance que Dieu fera justice. D'une manière générale, à la fin du monde, bien-aimés, mais déjà sur la terre, Dieu nous a déjà justifiés vis-à-vis du péché, en donnant Jésus-Christ à la croix. Déjà vis-à-vis de Satan, on n'a plus besoin de se justifier. Vis-à-vis des attaques de l'ennemi, on n'a plus besoin de prouver, parce que Jésus-Christ nous a déjà justifiés, bien-aimés. Ça, c'est la bonté de Dieu. Et même, bien-aimés, quelquefois même devant les hommes, Dieu nous fait justice, bien-aimés. Devant les hommes, Dieu nous fait justice. Dieu est bon, Dieu est fidèle, bien-aimés. Et si nous l'avons compris, alors acceptons aussi sa justice. Dieu est juste, bien-aimés, et nous devons le comprendre. Et il y a une autre facette, je dirais, de la justice de Dieu, quelquefois qui nous dépasse. Mais la justice de Dieu, bien-aimé, elle est conforme à sa bonté. Dieu est juste en fonction de sa bonté. Or, vous voyez, quelquefois, les hommes peuvent rendre justice avec méchanceté. Ils peuvent faire justice avec méchanceté. C'est-à-dire que une personne qui va faire le mal, le juge ou les jurés peuvent peut-être avoir un problème directement avec l'accusé. Des fois, c'est un problème physique. Peut-être la manière de parler énerve tout le monde. Alors, on peut juger plus sévèrement que si peut-être c'était une personne qui avait été douce, qui avait été calme. Donc, bien que la faute qu'il a commise nécessite un jugement, on va rendre ce jugement, mais on va le rendre beaucoup plus lourd. Parce que l'homme, dans sa justice, peut être animé d'une méchanceté, peut être animé tout simplement d'une soif de pouvoir. Le fait de vouloir montrer qu'on domine sur les autres peut pousser l'homme à rendre beaucoup plus dures les sentences, bien-aimés. Or, la justice de Dieu est conforme. La justice de Dieu est conforme à son amour, et c'est ça quelquefois qui nous dépasse, bien-aimés. Mais il y a quand même des gens dans la Bible qui avaient compris cette justice de Dieu. Aujourd'hui, une personne qui a commis beaucoup de fautes, qui a tué des milliers de personnes, sur le lit de mort, il se repent, il accepte le Seigneur. On entend les chrétiens, ah, mais non, mais là c'est trop facile. Ça c'est trop facile. Comment quelqu'un qui a fait ça, il peut être pardonné aussi facilement? Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Mais celui qui a saisi le Seigneur, celui qui a vraiment eu la révélation de Dieu et qui vit la vie de Dieu, qu'une telle personne se convertit sur le lit de mort, lui louera le Seigneur. parce qu'il comprendra que c'est une âme de plus qui est sauvée. C'est une âme de plus qui est sauvée. Mais ça, c'est quelque chose qui nous dépasse. Et ceux qui ont compris le Seigneur feront comme David, qui a fui devant Absalom, son fils, qui arrive dans une terre où il demande l'hospitalité. Un homme qu'on appelle Shimei vient l'accueillir, l'insulte de tous les noms. Les soldats de David sont là. Seigneur, laisse-nous lui couper la tête. Qui est-il pour t'insulter comme ça? David dit, ben non, s'il le fait, c'est que Dieu lui a permis. Peut-être que Dieu aura pitié de moi. Ce sont des gens bien-aimés qui avaient compris la bonté de Dieu, qui avaient compris la justice de Dieu. Le Seigneur envoie Jonas, va dans la grande ville Ninive, car ses péchés sont montés jusqu'à moi. Jonas cherche à fuir. Il se retrouve dans le bateau, la tempête se lève. On le jette par-dessus. Dans la bouche d'un poisson, on l'amène à bon port, là où Dieu voulait qu'il arrive. Jonas entre dans la ville, proclame les jugements de Dieu. Toute la ville se repent. Plus de 120 000 hommes. Jonas n'est pas content. Le Seigneur lui dit, tu voudrais que moi je n'ai pas compassion de plus de 120 000 hommes qui ne savent pas discerner leur gauche de la droite. Jonas dit, mais Seigneur, je savais. C'est pourquoi je ne voulais pas venir. Parce que je savais qu'en venant ici, tu allais avoir compassion d'eux. Jonas connaissait son Dieu. Il savait que dans les jugements de Dieu, ses jugements étaient conformes à sa bonté. Le fait que Dieu, dans son jugement, ait décidé d'épargner, de donner la vie, parce que l'homme s'est repenti, c'est quelque chose qui peut nous dépasser. Mais lorsqu'on a révélation de Dieu bien-aimé, alors ça nous aide à nous réjouir lorsque Dieu manifeste de telles choses. Ça peut arriver. Lorsque l'apôtre Paul s'est converti, bien-aimé, les Juifs n'avaient pas compris, certains ne croyaient pas. Certains peut-être avaient encore peur. Comment un tel homme qui a persécuté les chrétiens, aujourd'hui confesse le nom de Jésus? Et c'est le comportement que quelquefois les enfants de Dieu peuvent avoir. Une personne qu'on a connue très mauvaise, une personne qui a fait du mal. Si aujourd'hui un dictateur se repentait et viendrait au milieu de nous, je ne sais pas si la communion avec lui serait directe. Peut-être que c'est la personne qui est à l'origine de l'assassinat des membres de ta famille, des tueries pendant la guerre, des membres de ta famille que tu as perdu. Cette personne se convertit. Est-ce que ça sera facile d'accepter le jugement de Dieu? Et combien de fois, bien-aimés, nous avons du mal à pardonner parce que nous n'acceptons pas la justice de Dieu. Pour nous, la justice de Dieu paraît trop difficile, trop compliquée à accepter. Comment une personne qui m'a fait mal, qui m'a fait souffrir, et moi, il faudrait que je lui pardonne aussi facilement? Mais l'homme qui a péché volontairement contre Dieu, la Bible dit, il criait à Dieu et Dieu les délivra. Il les délivra de leur détresse alors qu'ils ont péché volontairement contre Dieu. Jésus-Christ sur la croix crucifié. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Si aujourd'hui, nous avons la vie de Dieu, c'est que nous devons être capables de pardonner. Dire que je n'ai pas pu, dire que je n'ai pas eu la force, c'est contredire la parole de Dieu. Si réellement nous avons eu cette révélation de Dieu, si réellement nous avons eu la vie de Dieu, alors nous devons aussi accepter sa justice et marcher conformément à sa parole. Dieu est bon et sa bonté se manifeste de toutes sortes de manières. Il y a encore beaucoup de points qu'on aurait pu développer, mais la révélation de Dieu, alors que nous étions loin de lui à cause du péché, c'est le témoignage de sa bonté. La vie que Dieu nous donne, la vie que le monde ne peut pas nous proposer, cette distinction dans laquelle le Seigneur veut nous maintenir entre ce qui est esprit, ce qui est charnel, entre l'homme et l'animal, c'est par la bonté de Dieu que Dieu nous a donné cette vie-là, parce que nous ne la méritions pas. Et la justice de Dieu, bien-aimé, c'est aussi la manifestation de sa bonté. Celui qui a compris ces choses-là, bien-aimé, acceptera tout ce qui vient de Dieu. Parce qu'il a eu sa révélation, il a eu sa vie, et dès cet instant, il peut comprendre le schéma et le fonctionnement du Seigneur. Souvenons-nous, bien-aimés, que Dieu est bon. Combien même ce qui nous arrive, on ne le comprend pas. Mais le fait de comprendre que Dieu est bon, ça nous aidera à supporter et à accepter tout ce que Dieu permet. Même s'il nous l'explique après, le plus important, c'est qu'on se souvienne que Dieu est bon. Si Dieu est bon, tout ce qui m'arrive, Dieu le permet aussi dans sa bonté. À lui seul soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Éternel, Nous te bénissons, Seigneur de gloire, ce matin encore pour ta bonté. Seigneur, c'est vrai que la manifestation de ta bonté quelquefois nous dépasse. Quelquefois nous amène à murmurer, à nous rebeller, Seigneur de gloire. Mais la Bible dit aussi que tu nous as donné ton Esprit Saint. Mais les soucis du monde, les réalités de la vie, Seigneur de gloire, nous empêchent quelquefois de te comprendre. Seigneur, aide-nous ce matin, Seigneur, à te faire entièrement confiance, Seigneur. Aide-nous ce matin à nous appuyer entièrement sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ, ce matin, Seigneur de gloire, aide-nous à te laisser régner, Seigneur de gloire, car c'est par ton règne dans nos vies, avec le discernement que l'Esprit Saint nous donne, Seigneur, que nous pouvons accepter et comprendre tout ce qui vient de toi. Dans le nom de Jésus, Seigneur de gloire, nous ne pouvons que te bénir encore ce matin, parce que tu t'es révélé à nous, Seigneur. Nous ne pouvons te bénir encore ce matin, Seigneur de gloire, parce que tu nous as donné ta vie, la vie que le monde ne pouvait pas nous donner, alors que nous étions dans l'angoisse, nous étions dans la solitude, nous étions dans la détresse, Seigneur. Combien même, Seigneur de gloire, le réfrigérateur était plein, combien même, Seigneur de gloire, il y avait de l'argent dans le compte, Seigneur. Nous avons passé des jours dans le deuil, Seigneur. Nous avons passé des jours dans la maladie, parce que, Seigneur de gloire, le monde ne pouvait pas nous donner cette paix. Cette paix, Seigneur de gloire, que nous expérimentons à travers la vie que tu nous as donnée. Seigneur, nous étions morts, mais tu nous as ressuscités, Seigneur. Nous avons entendu ta parole, Seigneur, et tu nous as donné la vie. C'est pourquoi, Seigneur, tu dis toi-même que celui qui reçoit ta parole est passé de la mort à la vie. Et aujourd'hui, Seigneur de gloire, nous pouvons dire que nous sommes vivants, Seigneur, parce que, Seigneur de gloire, dans ta bonté, tu t'es révélé à nous. Éternel Dieu de gloire, aide-nous à accepter tes jugements, Seigneur. Aide-nous à patienter. Mais aide-nous, Seigneur de gloire, aussi à nous préparer en nous purifiant. Car si tu n'as pas épargné ton propre fils, Seigneur de gloire, à cause de nos péchés qu'il avait portés, Seigneur de gloire, tu n'épargneras pas, Seigneur. Combien même on fera des miracles et des prodiges. Combien même, Seigneur de gloire, on bâtirait des églises. Mais si tu nous trouves avec le péché, Seigneur, dans ta bonté, Seigneur de gloire, tu seras contraint, Seigneur, de juger. C'est pourquoi, pendant que nous sommes vivants, Seigneur, tu nous avertis, Seigneur de gloire. Tu nous mets en garde, Seigneur, de la même manière que le Seigneur était venu pour proclamer la vie, pour donner l'espérance, mais qu'il reviendra aussi pour juger, Seigneur. Seigneur de gloire, merci, parce que vraiment, tu nous as aimés, Seigneur de gloire, et ton but, c'est qu'aucun d'entre nous se perde, mais que tous nous puissions conserver cette vie que tu nous as donnée, que tous, Seigneur de gloire, nous puissions un jour nous réjouir avec toi, Seigneur, dans la nouvelle Jérusalem. Oui, Seigneur de gloire, nous te bénissons, parce que combien même, Seigneur de gloire, ta parole peut être difficile quelquefois à accepter pour la chair, mais elle est bénéfique, Seigneur de gloire, pour notre vie. Car c'est ta parole qui donne la vie, c'est ta parole qui libère, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, merci de nous avoir justifiés par le sang de l'agneau. Merci de nous avoir purifiés, Seigneur, par la mort à la croix de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur de gloire, nous te rendons grâce pour ta vie, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, merci, Seigneur, pour le sacrifice de la croix. Merci pour ton sang qui a coulé, Seigneur de gloire. Et aujourd'hui, Seigneur, si nous sommes appelés saints, c'est parce que tu t'es sanctifié toi-même pour nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, aide-nous, Seigneur de gloire, à réaliser que ton pardon est encore disponible, Seigneur. Aide-nous ce matin à nous humilier, Seigneur, afin d'accepter ta grâce. Car tu dis, Seigneur de gloire, que lorsque le malheureux crie, tu entends, tu le délivres de toutes ses détresses. Et à travers du psaume 107, Seigneur, nous avons vu combien certains étaient malheureux, Seigneur. Dans leur détresse, ils t'ont invoqué. Tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Merci pour ta parole, Seigneur de gloire, qui nous a guéris. Merci pour ta parole qui nous a consolés. Merci pour ta parole qui nous donne une nouvelle espérance, Seigneur. Dans le nom de Jésus, à toi seul soit la gloire, Seigneur.